toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission à l'air libre consacrée aujourd'hui à Marie Ndiaye. Marie Ndiaye est auteure de romans, nouvelles, théâtre, scénarios et littérature pour la jeunesse. Née en 1967 d'une mère institutrice issue d'une famille d'agriculteurs beaucerons et d'un père sénégalais, elle commence à écrire à 12 ans et publie son premier livre chez Minuit à 17 ans, Quant au riche avenir, en 1985. Dès ses premiers romans, on admire son style virtuose, ses textes distanciés, voire parodiques envers les classiques, leur tonalité fantastique ou magique. Mais elle développe également dès le départ des thèmes introspectifs et s'attache aux questions sociales et au réalisme psychologique de manière de plus en plus maîtrisée pour aboutir ces dernières années à des ouvrages comme Rosie Carpe, qui a eu le prix féminin en 2001 aux éditions de Minuit, qui explore la question de la mutation identitaire, Mon cœur à l'étroit, paru chez Gallimard en 2007, l'histoire d'un couple victime d'ostracisme social sans la moindre explication, ou encore Trois femmes puissantes, paru chez Gallimard en 2009, Trois parcours de femmes sénégalaises, son dernier roman qui a obtenu le prix Goncourt en 2009. Cette année également, Marie Ndiaye a été récompensée par une distinction importante, la bourse Jean Gattegno, attribuée par le Centre National du Livre pour l'ensemble d'une œuvre et destinée à financer un projet en cours. Autre distinction notable, pour son œuvre de théâtre cette fois, Marie Ndiaye est l'un des deux seuls auteurs français vivants avec Michel Vinaver, sauf erreur, inscrite au répertoire de la Comédie française, et la plus jeune. Enfin, signalons qu'elle vit à Berlin avec son compagnon, l'écrivain Jean-Yves Sandret, avec qui elle a signé depuis peu quelques textes écrits à quatre mains, et qu'elle est la sœur de Pape Ndiaye, historien, membre du Cercle d'Action pour la Promotion de la Diversité en France, et auteur de La Condition Noire, essai sur une minorité française, paru chez Calman Levy en 2008, qu'elle a d'ailleurs préfacé. Cette précision est importante car l'entretien que nous avons eu ensemble, et que vous allez entendre dans un instant, a été réalisé en public en septembre 2009 au dernier festival littéraire des correspondances de Manosque. On se souvient qu'il a été beaucoup question par la suite de la polémique autour d'un soi-disant devoir de réserve exigé par le député Éric Raoult à la suite des propos que Marie Ndiaye avait tenus, ne faisant usage que de sa liberté d'expression et largement avant l'attribution du prix Goncourt, sur sa vision de la France actuelle. Elle y a justement parlé de son frère, Pape Ndiaye, et du rôle qu'il a joué pour elle. Elle a ensuite développé, sans mâcher ses mots, sa vision de la politique française et son installation à Berlin avec sa famille, répondant aux questions du public posées à la fin de notre rencontre. Je souhaitais mettre à votre disposition, avec l'accord de Marie Ndiaye, cet entretien, enregistré quelques jours avant l'attribution du prix Goncourt à Trois femmes puissantes. Nous n'entendrons ici, à la fois pour des questions de timing et parce qu'il me semblait, pour Marie Ndiaye, qu'il fallait revenir à ce qui concerne son travail d'écrivain, que la première partie, la plus longue, de cette intervention, même si, vous allez l'entendre, elle a insisté dans nos échanges sur le fait que de plus en plus sa vie publique interfère avec ses textes, une diffusion privée donc de son prolongement, les échanges avec le public que je pense tout de même mettre ultérieurement à la disposition des auditeurs séparément, en particulier sur le site de Radio Grenouille. Nous retrouvons donc Marie Ndiaye face à une assemblée très nombreuse sur la place de l'hôtel de ville de Manosque au premier jour de l'automne, à l'occasion du dernier festival littéraire des correspondances, pour cet entretien tout en douceur, mais où elle exprime, à mon sens, et de la même manière que dans son roman, une incroyable puissance.
Bonjour Marie Ndiaye.
Bonjour.
Bienvenue à Manosque pour cette rencontre, une des dernières de ces correspondances 2009 sur la place de l'Hôtel de Ville. Je voudrais, avant qu'on commence cette conversation, donner quelques éléments bio-bibliographiques qui nous concernent parce que je pense qu'on va réévoquer à propos de ce roman Trois femmes puissantes, le dernier livre que vous avez fait paraître aux éditions Gallimard, quelques-uns peut-être des éléments de ce parcours. Vous êtes né à Pithiviers, dans le centre de la France, d'une mère française, d'un père sénégalais, avec qui vous n'avez jamais vécu, et que vous êtes allé voir en Afrique uniquement à l'âge de 22 ans. Vous avez publié votre premier roman, Quant au riche avenir, à 17 ans, chez Minuit. Depuis, il y a eu une quinzaine de livres, peut-être un peu plus, des nouvelles, des pièces de théâtre. Vous êtes le premier auteur contemporain à entrer de votre vivant au répertoire de la Comédie française, en 2003, avec Papa doit manger, Je crois que c'est encore plus dur d'accomplir ça que de rentrer à la Pléiade de son vivant, j'ai l'impression. L'Académie française est encore plus, plus sévère. Des livres pour la jeunesse aussi, et des romans, dont La sorcière en 96, Rosie Carpe en 2001, qui a eu le prix Femina, et dont le thème, si on peut dire, n'est pas très éloigné de ce dernier livre, Trois femmes puissantes. En tout cas, il y a des rapprochements qu'on pourra peut-être faire. Récemment, c'est Mon cœur à l'étroit, en 2007, et donc ce 11e roman, c'est ça ? Vous savez pas, vous n'avez peut-être pas calculé.
Exactement, mais à peu près.
qui sort cette rentrée, qu'on a beaucoup remarqué tant chez les libraires que dans la presse. Trois femmes puissantes. C'est de lui donc dont on va parler pendant cette rencontre essentiellement. Je voudrais signaler aussi que vous avez reçu tout récemment le prix Jean Gattegno, qui est remis par le Centre national du livre et le ministère de la Culture, et qui récompense l'ensemble d'une œuvre et aussi des projets en cours. C'est un prix très prestigieux. Et donc, je voudrais vous féliciter pour ça une nouvelle fois en public. Alors, d'abord, j'ai cette interrogation à propos de ce livre qui concerne son titre. Quand on sort de sa lecture, quand on reprend la couverture, on se dit « Trois femmes puissantes » nous donne une lecture possible, mais ça n'est pas forcément celle qu'on a immédiatement. D'abord parce que s'il s'agit bien de femmes comme figure centrale de la première partie du livre et la dernière, elle n'est qu'une figure en second plan de la deuxième partie, et cette femme n'est pas centrale justement. Et surtout, ces trois femmes paraissent, et on va peut-être développer ça, très peu puissante et semble au contraire être dans un grand désarroi et être menée par quantité d'événements qui les dépassent. On va revenir à ça parce que c'est une impression qui s'atténue, mais j'aimerais bien quand même qu'on s'arrête à ce titre pour qu'on essaye d'avoir un petit peu votre point de vue.
Je voulais très précisément que le titre influence la lecture et la vision que le lecteur aurait de ces trois femmes, dont je ne voulais surtout pas qu'il les voie comme des victimes, malgré les épreuves nombreuses qu'elles traversent. Il était très important à mes yeux que ces femmes soient vues comme moi je les voyais, c'est-à-dire comme profondément, essentiellement fortes, malgré les apparences. Et donc, j'ai donc fait une chose que je ne pratique d'habitude pas, c'est-à-dire que j'ai choisi un titre qui avait précisément pour but d'influer grandement sur la vision que le lecteur aurait de ces histoires et de ces femmes, parce que j'aurais craint sinon, sans le mot puissante dans ce titre, qu'effectivement on réduise le sort, la vie, le destin de ces trois femmes à une suite d'aventures surtout malheureuses, alors que dans mon esprit c'était autre chose.
Est-ce que le titre, pour vous, fait partie, alors vous l'avez dit, c'est pour vraiment influencer la lecture, le regard qu'on peut porter. Est-ce que ça fait vraiment réellement partie du texte ? C'est-à-dire que c'est une sorte de surtexte sur l'ensemble du roman, pas uniquement les trois premiers mots par lesquels on l'aborde, mais comme souvent dans ce livre, il y a de nombreux échos, des phrases qui se répètent, cette formule « Trois femmes puissantes » est comme une litanie oubliée, puisque en reprenant le livre, en général, on ne pense pas toujours au titre, et pourtant il est là, et donc qui marque l'ensemble du livre, et je le disais, comme le texte, comme l'intégralité du texte.
Dans le cas présent, oui, le titre est vraiment une partie intégrante du texte. Et comme vous le disiez, il le surplombe, il imprime une marque de sens assez forte sur le texte. Dans mes précédents livres, c'était autre chose. Les titres étaient moins significatif, moins impérieux. C'était des titres qui existaient parce qu'il faut qu'un roman ait un titre, mais qui n'avaient pas plus de sens que cela. C'était des titres qui auraient pu être différents, et c'était des titres plus légers. Voilà, ce titre-là est vraiment presque une partie du livre, ou une forme de conclusion aussi du livre.
Alors effectivement, on comprend de mieux en mieux ce titre quand on s'y attache avec la dernière partie du récit. Mais je voudrais qu'on parle justement de cette construction en trois récits. Je le disais, donc, avec deux récits qui sont complètement centrés sur une femme. Le premier, Nora, et le dernier, Kadi Demba. Elle dit elle-même souvent son nom en entier, avec une certaine fierté. Et puis, le récit central, le plus long, où il y a également une femme, Fanta, mais qui tourne autour d'un personnage masculin, Rudy, qui est le narrateur de ce récit. Donc je voudrais qu'on évoque un petit peu cette forme très particulière où des choses se répondent, où chaque partie se termine avec un contrepoint qui ouvre aussi la partie vers un autre regard, avec un thème qui se dégage peu à peu. Mais à propos de cette construction-là, comment est-ce qu'elle est arrivée ? Pourquoi avoir choisi aussi un personnage masculin pour la deuxième partie, par exemple ?
Ma première intention en écrivant le livre, en me lançant plutôt dans l'écriture de livres, était d'écrire un roman linéaire, plus classique dans sa structure. Et puis je me suis assez vite rendu compte que j'aurais du mal, sans trop d'artifice, à y faire entrer tous les personnages que je souhaitais y faire entrer, puisque ces trois femmes ont des vies très différentes, des chances très inégales, des âges très différents aussi, et elles ne vivent pas aux mêmes endroits du monde. Et finalement, plutôt que de chercher à faire entrer de force ces personnages dans une structure romanesque unique, simplement pour respecter une forme classique, J'ai pris le parti de diviser le roman en trois, en essayant de créer des liens entre les trois parties, des liens discrets, mais en prenant malgré tout le très léger risque, effectivement, que ça ressemble à trois nouvelles plutôt qu'à un roman, même si dans ma tête c'est un roman. Et vous me demandiez la raison de la présence masculine centrale de la deuxième partie, alors qu'il s'agit de trois femmes puissantes, et que donc la deuxième est vue uniquement à travers les yeux, les pensées de son mari. Là, il s'agissait d'une sorte d'équilibre esthétique. C'est aussi la partie la plus longue. Les deux autres sont à peu près de même taille et elles l'encadrent. Et je trouvais plus beau, oui, d'une certaine façon, qu'il y ait une femme, puis un homme, et une femme à la fin. Et aussi, je n'avais pas spécialement envie que ce soit le regard uniquement de ces trois femmes. Il me semblait que cet homme avait aussi sa place. Et j'aimais bien aussi l'idée que la deuxième femme, donc, soit vue d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on n'ait jamais, nous, un regard direct sur elle, mais qu'on la voit, qu'on la devine, qu'on se la représente à travers un autre regard, et un regard nécessairement encore plus subjectif que le regard de l'auteur, et que du coup, on se demande aussi si ce regard était fiable.
D'ailleurs, elle paraît, comme puisqu'elle est absente et qu'elle a vu uniquement à travers, avec le regard de son mari, elle paraît plus forte parce qu'elle a une présence, absence, qui pèse sur tous ses gestes et sur toutes ses pensées pendant cette partie-là. Et du coup, effectivement, il y a une puissance qui se dégage là, qui est presque une puissance magique, lointaine, qui influe sur ce personnage. Mais vous l'avez dit, il y a des échos, des noms qu'on retrouve, des lieux qu'on retrouve, même si tout ça ne se passe pas au même endroit. Donc on parlera de ça, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte d'accélération du rythme, même si la première et la dernière partie sont à peu près égales et que la deuxième partie est la plus longue. La dernière est plus concentrée, plus rapide, et je trouve s'approche également plus d'un thème qui se dégage peu à peu, qui est à la fois celui des rapports entre ces hommes et ces femmes, et ces puissances, ces influences mutuelles, et également des rapports qui sont liés à la géographie entre la France et l'Afrique. Donc cette articulation-là, j'aimerais bien qu'on en parle. Et comment vous avez aussi fait en sorte que ça se dévoile presque de manière éclatante sur la dernière partie.
C'est-à-dire ?
Cette précipitation, à la fois cette précipitation et cet éclairage qui n'apparaît que de manière annexe, détournée dans les premières parties, qui est celui de... Le thème qui se dégage, c'est les rapports entre la France et l'Afrique, mais d'une manière très forte, à savoir avec les migrations, les trafics de clandestins, et la douleur et la violence qui se dégagent de tout ça. Et en même temps, à l'intérieur de tout ça, il y a le rapport entre les hommes et les femmes, qui là aussi est encore plus violent que dans les autres parties.
Il s'agit, oui, de trois histoires d'exil. Et dans les deux premières parties, finalement, ce sont des exils problématiques, mais en tout cas choisis. C'est-à-dire, dans la première partie, une femme qui vit en France rend visite à son père en Afrique. Dans la deuxième, un Français qui vivait en Afrique revient en France. Et certes, tous les deux souffrent de cet exil, mais dans la troisième partie, là, il n'est plus question d'exil difficile ou problématique, mais vitale, puisqu'il s'agit d'une jeune femme, d'une jeune Africaine qui doit essayer de joindre l'Europe. Et c'est comme si, finalement, après les deux premières parties où l'exil est presque une question luxueuse, dans la troisième, on arrivait à un exil sur lequel on n'a plus à se poser des questions sentimentales. C'est une question de vie ou de mort. Donc, effectivement, comme vous le disiez, je crois, la troisième partie est comme un concentré plus violent, plus violent de ce que les deux premières essayaient d'approcher. Et l'action est plus rapide aussi, et le nombre de personnages est moins grand, oui. Et peut-être que cette accélération vient du fait que c'est la vie même de cette femme qui est en jeu.
Marie Ndiaye, Pascal Jourdana, à l'air libre, aux correspondances de Manosque.
On en a eu une rencontre ici même au début de ce festival avec Yannick Enel et Laurent Mauvignier où ils évoquaient tous les deux l'importance de ce lien, de similitude entre les drames intimes et les drames collectifs, entre les histoires intimes et les histoires collectives. Et je me demande si votre démarche d'écriture est différente, mais en même temps il y a peut-être une démarche liée un peu à la même problématique évoquée par Yannick Enel et Laurent Mauvignier. Je sais aussi que vous avez préfacé le livre de votre frère Pape Ndiaye qui s'appelle La condition noire, un essai sur une minorité française chez Kahneman Levy. Et cette préoccupation qui est là, on sent qu'elle est là. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui fait réfléchir politiquement, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression que votre ambition, votre projet, votre préoccupation d'écrivain va au-delà de cette articulation-là. Et évidemment, de l'actualité et des contingences, je dirais, même les plus terribles. Mmh. Donc je voudrais savoir comment vous pourriez vous-même vous situer sur cette ligne particulière.
Je pense que même si on ne s'en rend pas vraiment compte en tant qu'écrivain, je pense malgré tout qu'on est influencé par une sorte de mouvement autour de nous et que ce n'est pas un hasard si finalement cette rentrée plusieurs livres français s'attache à décrire des vies prises dans la guerre, comme les livres de Mauvignier ou de Enel, qui a une sorte de dimension historique très forte dans ces romans-là. Ce n'est pas un hasard, c'est assez nouveau, il me semble, en tout cas dans une rentrée littéraire française. Et je pense que même si c'est absolument inconscient, je suis prise aussi dans cette espèce de grand mouvement d'interrogation des auteurs sur le monde, et prise aussi sans doute dans cette envie de sortir un peu de soi. Et cette histoire en particulier de la jeune migrante m'a été bien sûr inspirée par les nombreux reportages qu'on a vus à ce sujet ces dernières années. Et je trouve que c'est un sujet extrêmement, extrêmement douloureux, bien sûr, mais surtout ce qui m'apparaissait lorsque je voyais des documentaires sur les voyages inouïs de ces gens, c'est à quel point ils étaient héroïques, c'est-à-dire qu'ils affrontent des souffrances dont on a peine à se faire idée, et ils font montre en général d'une vaillance incroyable. Et j'avais vraiment envie de faire donc de la figure en soi misérable de cette jeune femme qui compte pour rien dans le monde, une héroïne, et que grâce aux mots, grâce à la littérature, elle devienne un être humain important.
Elle avait la conscience claire, indubitable, qu'elle venait d'accomplir un geste qui n'avait procédé que de sa résolution, que de l'idée qu'elle s'était formée à toute vitesse de l'intérêt vital qu'il y avait pour elle à fuir l'embarcation, la comblait d'une joie ardente, féroce, éperdue, lui révélant dans le même temps qu'il ne lui était encore jamais arrivé de décider aussi pleinement de quoi que ce fût d'important pour elle. C'est... Je coupe une phrase qui fait tout un paragraphe, mais parce que cette partie-là montre justement ça, cet héroïsme et cette grande puissance de cette femme. Elle est dans la fuite, bien sûr, elle est là pour sauver sa peau, mais en même temps, elle ressent ça comme... une décision de sa part très importante, et elle n'a jamais éprouvé autant de liberté. Et c'est ça justement, il me semble, qui marque aussi cette différence, peut-être, dans votre écriture, pour cette présence de l'histoire immédiate ou de l'histoire plus ancienne, que vous traitez quand même d'une manière très particulière, très personnelle, et qui fait suite à vos autres ouvrages. Donc c'est pour ça que je posais cette question là aussi, de votre ambition d'écrivain qui dépasse, il me semble, la préoccupation de rendre compte du monde.
Alors, vous avez dit très très justement que cette femme, même au cœur de grandes souffrances, finalement se délivre de quelque chose. Et une figure héroïque souvent doit non seulement se rendre d'un point à un autre géographiquement, mais aussi d'un point à un autre en esprit. Et cette femme doit aussi prendre conscience d'elle-même, et elle était un être entravé, et au cours de son parcours elle devient un être libre entre guillemets, mais malgré tout c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et ça donc, c'était vraiment lié au désir que j'avais de faire de cette femme une héroïne. Vous évoquiez la préface que j'ai faite au livre de mon frère qui est historien. C'est une préface sous forme de nouvelle, et c'est vrai aussi que la fréquentation de mon frère et les discussions que j'ai avec lui sur la question des minorités en France, pour aller vite, m'ont énormément enrichi et m'ont aidé aussi, je pense, à écrire cette histoire-là. C'est-à-dire que cela m'a ouvert tout un champ de réflexion que jusqu'alors je n'avais pas finalement.
On part de loin, je dirais, pour raconter ces histoires, pour que ce roman se mette en place jusqu'à cette précipitation finale. Mais il y a aussi, dès le départ, un certain nombre d'éléments qui manquent, et dans l'écriture, dans la construction de la phrase, et dans ce qui se déroule, dans les dialogues en particulier. Il y a énormément de dialogues qui sont parallèles, et en fait les gens ne se croisent pas, ne se parlent pas directement, ne se comprennent pas très souvent, et tous ces manques créent beaucoup de troubles et d'instabilité qui donnent ce qu'on ressent au départ justement à ces personnages, une certaine fragilité et une angoisse même.
Alors les trous, les manques qui visent souvent quand même à créer une impression de mystère, tout cela vient aussi du fait que dans un roman, il me semble que un des buts premiers est de retenir le lecteur, de le retenir afin qu'il aille au bout et qu'il ait avec le livre, une fréquentation suffisamment intense et longue pour qu'on puisse lui dire tout ce qu'on souhaite lui dire. Et je le sais très bien moi-même en tant que lectrice, c'est très simple aussi de laisser un livre en route, de ne pas le reprendre parce qu'on s'ennuie un peu ou parce qu'on ne voit pas où cela mène. Et une technique donc pour réussir à capter le lecteur, c'est de lui faire croire que s'il va au bout, il aura des réponses aux questions qu'il se pose, ces questions donc qui sont induites par les trous, les manques. Et dans le roman, il y a une forme de bêtise aussi, au sens où on sait qu'il y a des petits trucs un peu grossiers pour que, voilà, que le lecteur ait envie de rester avec le livre. Et donc ces manques, ces incertitudes dont vous parlez viennent aussi de ça, de cette technique finalement romanesque, légèrement primaire, mais qui vise à ce que le lecteur se rende en quelque sorte.
C'est l'art de raconter des histoires, parce que vous aimez ça, raconter des histoires.
Oui.
Mais en même temps, ces mystères qui sont créés par ces manques ne sont pas tous, et loin de là, résolus ni dévoilés au fur et à mesure de l'avancée. Et je dirais même que cette construction en trois parties où on change de personnage à un certain moment laisse en plan les histoires et certaines parties de cette histoire qu'on ne connaîtra jamais.
Oui, alors dans les romans que j'aime énormément lire ressortent davantage du polar, il y a en principe une réponse à chaque interrogation et le livre est bien clos sur lui-même. Dans les romans que j'écris, dans la plupart de ceux que je lis, on est, je pense, plus près de la vraie vie, au sens où dans la vie, toutes les questions, loin de là, ne sont pas résolues. Et lorsqu'un être humain meurt, il est rare que son existence ressemble à un cercle bien clos. En général, il y a plein de pistes qui restent qui restent inempruntées. Il y a plein d'interrogations qui restent ouvertes. Et j'aime bien que le roman ressemble un peu à ça, qu'il y ait des fils qui se noue et d'autres qui restent libres.
Il y a aussi, on l'entend dans cette conversation avec son père, entre Nora et son père, il y a aussi, c'est frappant dans les deux premières parties, un petit peu moins dans la dernière, mais des choses qui viennent de loin, qui sont très pesante sur le vécu des personnages dans leur actualité, dans le présent, et qui constitue un mystère qui est ressenti comme quelque chose d'inquiétant et aussi comme s'il y avait une sorte de péché originel. Alors je dis péché en y mettant les guillemets nécessaires, parce qu'il n'y a rien de chrétien ni de religieux derrière tout ça, mais comme une faute oubliée qui doit être dévoilée, résolue. Et ça, je trouve que ça apparaît très souvent, où les personnages se demandent qu'est-ce qui fait qu'ils méritent une sorte de condamnation.
Ils sont, c'est vrai, souvent en proie à un sentiment de culpabilité illégitime, et le père qui lui a beaucoup à se reprocher ne semble pas lui souffrir de cela. En revanche, sa fille qui a peu à se reprocher endosse en quelque sorte toute la responsabilité de ce qui s'est fait dans son enfance et de ce que son père a fait, oui, c'est. Mais il me semble que c'est moins le cas aujourd'hui, mais dans l'éducation qu'on recevait encore à l'époque de mon enfance, la culpabilité était très présente, c'est-à-dire que je me souviens que dans mon enfance, oui, très vite, le sentiment de la faute était là. Alors, faute des fois précise pour des bêtises, mais aussi des fois une sorte de faute vague, on peut dire originelle, mais qui était assez présente, oui, il me semble, dans l'éducation chrétienne traditionnelle des enfants jusqu'à il y a peu en Occident. Et peut-être que ce que j'ai écrit est imprégné, sans même que je m'en rende nécessairement compte de cela.
Il y a autre chose qui imprègne aussi, chacun des personnages le ressent à un moment qui imprègne leur quotidien, ou à un certain moment, c'est la honte. Le mot est utilisé plusieurs fois et dans chacune des parties. Il y a toujours un moment où ils ressentent de la honte pour eux-mêmes, sans trop savoir, là encore, pourquoi ni d'où ça vient.
Oui, ben la honte est liée à la faute, oui, c'est certain. Honte d'une faute qu'on leur reproche, ou plutôt qu'ils se reprochent à eux-mêmes, oui. Ils sont excessivement exigeants, en fait.
Marie Ndiaye, Pascal Jourdana, à l'air livre, aux correspondances de Manosque.
Alors tout ça, je trouve, avec ces phrases aussi qui laissent des incertitudes, et ces personnages qui ne savent pas trop d'où les choses viennent et pourquoi ils se retrouvent dans ces situations-là, nous laissent quand même dans un grand désarroi, et les laissent dans un grand désarroi. Qui peut-être nous ramène à la question première de il y a beaucoup de flottement, il y a beaucoup de migration et de déplacement des personnages, comme s'il n'y avait pas de place fixe.
Je crois de toute façon que l'exil en lui-même induit le désarroi de manière plus ou moins grave, de manière aussi très légère, mais malgré tout, le désarroi est là lorsqu'on part vivre ailleurs. Je vis depuis un peu plus de 2 ans maintenant en Allemagne, à Berlin, donc dans un pays dont je n'avais jamais appris la langue. Et au début, même si là c'est un exil choisi, désiré, un exil de luxe en quelque sorte, malgré tout, très souvent, surtout au cours de la première année, je me suis trouvée effectivement désorientée, c'est-à-dire je me suis trouvée dans des situations où j'étais incapable de comprendre ce qu'on me disait, incapable de comprendre ce que je devais dire ou faire, surtout que, donc, n'ayant jamais appris la langue au début, maintenant je l'ai apprise un peu, donc c'est différent, mais au début, il y avait des situations où vraiment j'étais dans le noir absolu. Je n'avais aucune idée de ce que les mots qu'on me disait ou les mots que je lisais voulaient dire. Donc, comme là, ces personnages sont dans des situations d'exil douloureux, leur désorientation est d'autant plus forte, oui. Mais dès qu'il y a déplacement, il y a une certaine forme de détresse.
Oui, le sentiment d'une catastrophe imminente aussi.
Ah oui.
Je trouve.
Et qui arrive chez tous ces personnages,
il y a ce qui arrive les met peut-être pas réellement dans la situation, sauf pour le dernier, dans le dernier récit peut-être, mais leur donne le sentiment d'être au bord du gouffre et au bord de la catastrophe, peut-être à cause de cette instabilité.
Oui, sans doute.
Alors, vous l'avez dit, c'est un roman, ce ne sont pas trois nouvelles, on a compris que tout ça se croise. Je voudrais qu'on évoque peut-être aussi cette manière de faire se croiser ces récits. Il y a quelques noms, des personnages, on les nomme sans en dire plus dans chacun des récits, les autres sont plus ou moins présents. Mais il y a aussi comme des leitmotifs secondaires, mais qui prennent beaucoup de place, il me semble. Et je voudrais qu'on évoque un petit peu ces thèmes, qui ne sont pas des thèmes justement, mais ces couleurs, ces sons, ces objets, ces animaux qui se répètent. Enfin, les animaux, je pense aux oiseaux qui sont présents. Je pense aux odeurs nauséabondes qui sont aussi à un moment ou à l'autre qui apparaissent dans les récits. Les enfants. L'importance des enfants et la fuite, le lien fuir avec les enfants ou pas, et l'angoisse que ça peut créer, ou fuir en étant dans une situation d'enfant pratiquement pour le dernier récit, plus ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la honte, le désarroi, qui sont là aussi mais qui sont peut-être plus liés au sens. Là, ce sont des choses qui sont plus sensibles, plus de l'ordre de l'émotion.
J'ai fait en sorte, enfin, en tout cas, c'était mon intention que ce livre ait quelque chose de musical, et même les trois parties, finalement, je les vois un peu comme des variations sur des images récurrentes, images récurrentes que sont effectivement la présence des oiseaux. La présence de certaines teintes, de certains ciels, et tout cela avait pour but d'imprégner d'une sorte de musicalité lente l'oreille du lecteur.
Cette petite partie que vous titrez contrepoint, qui termine chacune des trois parties, est d'ordre musical aussi.
Oui, et aussi là, il y a aussi une question de sens. Je souhaitais que la fin de chaque histoire soit joyeuse, sinon heureuse. Et finalement, ces très brefs textes qui ferment chaque histoire doivent laisser dans l'esprit du lecteur une impression de gaieté relative.
Leitmotiv aussi dans la répétition de certaines phrases, presque textuellement, de quelques pages après, comme « leur père était ainsi implacable, terrible », c'est répété, ce qui évidemment ajoute à cet aspect implacable, où un démon s'était assis sur le ventre du garçon de 5 ans et ne l'avait plus quitté depuis, qui est une phrase qu'on retrouve pratiquement textuellement un petit peu plus loin. Il y a aussi dans le rythme, du coup, cette répétition qui se fait aussi, et pas uniquement dans les évocations d'oiseaux, d'odeurs, de ciel dont vous parliez.
Oui, là c'est tout un travail pour arriver à ce que la texture même des phrases du texte rende cette impression de musique. Oui, puisque souvent on essaye avec les mots de s'approcher de ce que doit être ou de ce qu'est la musique. Il y a souvent une grande frustration de ressentir que les mots en sont si loin, semblent si impurs, si durs à traiter auprès de ce qui semble être une perfection musicale. Donc, mais une de mes tâches est d'essayer de m'en approcher le plus possible.
Vous avez parlé tout à l'heure de ces absences qui créent du mystère aussi. Les oiseaux que j'ai évoqués tout à l'heure créent une petite atmosphère plus étrange aussi, presque fantastique. C'est un autre genre de mystère qui sont des éléments qu'on pouvait trouver dans vos précédents livres de manière plus marquée peut-être, qui sont encore là de manière plus anecdotique peut-être, mais ces oiseaux représentent effectivement quelque chose de d'un peu fantastique, en tout cas qui est d'une sorte d'autre explication possible, d'autres réalités possibles. Je ne sais pas si pour vous c'est dans le prolongement de certains de vos livres précédents où c'était plus présent ou pas.
J'aime énormément les films d'épouvante. Il y a une chose qui me plaît en particulier dans ce genre de films, c'est qu'en général, ils commencent par une situation extrêmement tranquille et banale, et puis on glisse progressivement vers l'horreur, et je ne fais pas exactement cela, mais la présence des oiseaux m'a été vraiment inspirée par le film du même nom d'Hitchcock, où au départ les oiseaux sont ces êtres charmants, jolis et gracieux dont l'héroïne d'ailleurs veut offrir deux exemplaires aux héros, et puis ils se transforment en ces êtres effrayants et agressifs que l'on sait. Et c'est un peu, très lointainement, mais quelque chose de ce genre que j'ai voulu faire.
Ça me fait penser à ce qu'on dit souvent de vous, à savoir une écriture, une manière douce d'écrire des choses terribles ou d'évoquer, comme vous le faites là, des événements qui sont proprement effrayants. Et j'aimerais savoir comment vous ressentez ça quand on parle de cette douceur liée à votre personne probablement aussi et liée à un certain type d'écriture qui s'approche doucement de quelque chose de terrible. Comment vous le ressentez quand vous entendez ça dans la bouche de lecteur ou de critique?
Comment je le ressens? Je le comprends, oui, je l'entends. Encore une fois, finalement, c'est aussi une technique des films d'horreur, ça, de s'approcher très doucement de l'épouvante.
C'est pour mieux nous faire peur, après.
Peut-être.
Alors, une dernière question avant de vous laisser la parole. C'est une impression, en fait, parce que cette scène avec une buse qui attaque et qui effectivement fait penser à Hitchcock m'a fait aussi penser, moi, à quelque chose que je ressens de manière beaucoup plus intuitive sur l'ensemble du livre et sur certaines parties, en particulier celle-là. C'est une écriture qui me fait penser à Faulkner. Donc j'y vais directement, parce que il se trouve que il y a ce champ de maïs, il y a tout ce poids de choses qui viennent de loin, une culpabilité, des fautes qui n'en sont pas vraiment, qui obsèdent les personnages, les relations entre les êtres, et une écriture qui ne dit pas tout, qui avance comme ça. Donc je voulais savoir, par curiosité, si c'est un auteur que vous avez lu, que vous connaissez, que vous appréciez, qui vous a, je ne sais pas si c'est inspiré, mais en tout cas qui peut être présent dans votre approche d'écriture.
Oui, c'est un des auteurs que j'aime le plus au monde, que je lis et relis depuis largement plus de 20 ans. Maintenant, en traduction, hein, dans, car je ne suis pas assez bonne angliciste pour le lire en américain, en tout cas, mais c'est un des rares auteurs avec Claude Simon, Malcolm Lowry, Virginia Woolf, que je lis, ou en tout cas dont je lis des pages chaque année. Les livres de Faulkner, et en particulier Lumière d'août et Le bruit et la fureur, ne quittent jamais mon bureau.
Merci.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette rencontre à l'air libre avec Marianne Day. Merci de l'avoir suivi. La prochaine rencontre aura lieu au mois de février, le premier mercredi du mois, comme tous les mois. En attendant, rendez-vous sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org, où vous pourrez retrouver cet entretien, l'enregistrement de cet entretien, ainsi que toutes les références bio et bibliographiques. Bonne année 2010 à tous et à très bientôt.
La luz de tu cuerpo es juego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego.